Merci Laetitia Gallier. Original, soyez les bienvenus avec Leïla Kadouboudadi, Paul Villa, Pierre-Emmanuel Barré, le retour de Daniel Brochard, c'est dingue. Ok, Olivier Charlotte, et nos invités Clémentine Célari et Pierre Cassignard.
Incroyable.
Un public en délire.
Ravi, totalement.
Les 200 personnes sont nues.
c'est bon d'être là.
Darius, on va en parler. J'ai apprécié et le roman, parce que il y a un texte, enfin il y a un roman qui a été publié aux éditions Rive-Neuve, et puis cette adaptation au théâtre, cette création que vous allez interpréter. Est-ce que vous, Tom Villa, j'ai peur que vous n'ayez pas bien compris pourquoi Clémentine et Pierre sont nos invités. Parce que c'est jamais très clair.
On me l'a fait pas, Nagui. On sait tous que c'est votre fantasme absolu. Et puis vous avez beau inviter Clémentine pour tenir la chandelle, nous on nous la fait pas, Nagui. Vraiment, je vous la.
Pierre Cassignard est mon fantasme.
Bah oui, bien sûr. Vous me l'avez dit en antenne. Bonjour Clémentine Célarié. Bonjour Pierre Cassignard. Alors après avoir cartonné cet été à Avignon, ils reviennent au théâtre des Mathurins, parce que oui, il y a des spectacle qui arrive à ne pas mettre la clé sous la porte après avoir fait Avignon.
Ça c'est dégueulasse pour les copains.
Vous voyez, c'est pas vous. Alors Pierre Cassignard, pour ceux qui mettraient peut-être pas un visage sur votre nom, vous êtes celui qui a interprété Frédéric Lefebvre dans le film sur Nicolas Sarkozy, La Conquête. Voilà, donc oui. Vous allez pouvoir répondre à la question, qu'est-ce qui est le plus dur, apprendre à faire un brushing ou relire tout Zadig et Voltaire. Et Clémentine et Pierre.
Ah oui, il fallait retrouver la vanne de Zadig et
Voltaire. On aime l'histoire et la politique.
C'était pas une vanne malheureusement.
Alors Clémentine, Pierre, vous venez nous présenter la pièce Darius. Darius, c'est l'histoire de Claire que vous interprétez, Clémentine, qui engage Paul, donc vous, Pierre, un célèbre créateur de parfums. Et Paul a la lourde tâche de parcourir le monde et de recréer les parfums de villes, de rencontres, de souvenirs qui ont jalonné la vie de votre fils, Clémentine, immobilisé par la maladie.
Darius.
Voilà, exactement.
Donc,
Paul est donc ce qu'on appelle un nez. C'est marrant parce qu'il n'y a pas d'autre métier qu'on appelle par le nom de l'organe qu'on sollicite. On n'appelle pas un footballeur un pied, un metteur en scène un œil, un acteur porno, une femme. Bon, voilà, vous avez compris le concept. je veux pas insister, mais c'est là où on est content d'être en France quand même.
Il y a pas d'animateur qu'on appelle une bouche, non?
Bah, je sais pas. Enfin, on le dit pas devant vous. mais c'est là où je suis content d'être en France et d'avoir du vocabulaire, parce que tu as un nez, c'est chouette, mais Daniel, on l'appelle la truffe, c'est pas pareil. Alors Paul, il est content d'être venu, Daniel. Alors donc Paul, le nez se retrouve donc à faire le tour du monde pour récolter les odeurs des lieux et des gens que Darius a visités.
Ouais.
Alors autant aller récolter les odeurs d'un marché ou d'un jardin, ça va, mais va essayer de récolter l'odeur d'une fille. Si la meuf est pas prévenue, ça va être compliqué à expliquer devant le juge quand même.
Mais c'est ce qui se passe justement. Ils y arrivent.
Non mais et donc il doit recréer plein d'odeurs. Vous devez recréer l'odeur de Rome, hein, la ville, pas la communauté. Le métro non, parisien, le TGV.
On ne cautionne pas tout ça.
Le TGV c'est facile, c'est un mélange de moquette qui colle et de chaussettes fatiguées. et pas l'inverse. Hein. Et puis le défi s'accélère parce que Darius demande à ce qu'on crée des odeurs d'endroits où il est jamais allé pour continuer
là.
Ça y est, tu l'as la carte 12-25. Hein. Ouais, et donc Darius demande à créer des odeurs où il n'est jamais allé pour son imaginaire, voilà. Donc pas besoin de faire le tour du monde pour ça. Prenez le métro, par exemple. Tu veux des odeurs d'Orient, tu prends la ligne 2, comme ça vous arrêtez à Belleville et le tour est joué. Une odeur de blanquette de veau, la ligne 3, jusqu'à Étienne Marcel. Une odeur de champagne et de caviar, ligne 12, jusqu'à Assemblée Nationale. Voilà, RATP, voilà, leur slogan, ça devrait être un tour du monde en 80 odeurs à portée de narine. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais
non.
Si vous aimez les tours du monde, la foire aux odeurs et les acteurs de talent, et ben Darius est fait pour vous.
Ça oui,
c'est
bon, ça oui.
C'est la bande originale.
C'est mieux que ce que ça a commencé.
Professeur Pourri, comprenez que moi.
La truffe, attention, hein.
Clémentine, vous jouez donc le rôle de cette maman qui a un fils handicapé qui s'appelle Darius, et vous avez toujours aimé les fragrances créées par Paul. Vous lui écrivez par en ayant trouvé un mail, une adresse, en disant après tout on essaye, on sait jamais ce qui peut se passer. Mon fils est handicapé, il ne peut plus vraiment se déplacer aussi facilement. J'aimerais que par les odeurs vous puissiez évoquer tous ces souvenirs. Et ça devient une espèce de rôde de pièces de théâtre à travers les parfums, un exercice particulier, d'autant que c'est épistolaire, ce sont des échanges de mails ou de courriers, en tout cas entre vous deux, comme je n'ai pas vu cette pièce qui démarra ce 24 janvier. Vous êtes tous les deux assis à une table, la mise en scène, c'est
non,
pas du tout.
Non, plus en fait, mouvement.
En fait, c'est Anne Bouvier qui a fait la mise en scène. Et c'est un peu à la, comment dire, à la façon asiatique qu'ont certains cinéastes de faire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là, mais on est là. C'est-à-dire qu'il y a une personne, moi j'écris à Paul, et je lui demande, c'est pour moi une mission super importante, parce que mon fils, pour moi, le fait qu'il puisse sentir quelque chose, ça va le faire vivre, survivre, ça va le faire rêver, réagir, ça va le faire réagir, ça va le faire voyager. Donc en fait, pour moi, c'est un truc, mais essentiel. Donc, comme je dis à Paul, c'est une mission impossible. Voilà. Mais donc, est-ce que vous êtes capable? Et donc, quand je lui écris, lui...
Il décline dans un premier temps et ensuite voilà, il se prend au jeu.
Et, et après, bon, j'insiste et tout ça. Et on se voit, en fait. On se voit. C'est-à-dire qu'on on s'écrit, mais on se voit. On finit par se voir. On est ensemble. On se parle. Anne a eu cette intelligence de transformer ça avec... C'est une présence. C'est comme quand vous parlez, quand vous êtes dingue. Bon, comme ça, ça peut m'arriver. Et puis vous parlez à quelqu'un qui n'est pas là. Si vous voulez, je veux dire. Ouais. Non, vous voyez, c'est l'imaginaire qui travaille. Et donc, c'est beau.
C'est pas Love Letters, quoi. On n'est pas à un bureau chacun. C'est pas Jean-Pierre, Mylène de Bongeau.
D'accord.
Ils sont super.
Ils sont super.
Allez, bim.
Non, pas du tout.
On en parlera à Mylène qui sera notre invitée jeudi prochain. On lui passera l'extrait de cette émission.
Mais sans la fin.
Mais non, donc l'exercice, et c'est ça qui est prenant dans cette histoire, c'est de te dire, mais comment recréer en effet des parfums d'une ville, d'un lieu, d'une ambiance. Il y a même une vanne sur Rome qui passe mal, mais
comme
qui...
la mienne ou pas?
Non, une vanne sur les pizzas qui passe mal dans Rome, mais qui justement fera comme une espèce de détonateur, c'est-à-dire tout le monde comprendra que Darius, malgré son handicap, retrouve l'humour et donc la vie, puisque la vie passe par ça.
Oui, absolument. Ouais. Mais parle, vas-y.
Non, parce que complètement, ouais.
Mais alors, d'abord, Claire, elle n'utilise jamais, je n'utilise jamais le mot handicap pour mon fils, hein, jamais. Et puis, en plus, moi, Clémentine, ça, pour moi, ça n'existe pas, ça. Enfin, je veux dire, c'est. Non,
alors,
mais je fais exprès.
Quel mot voudriez-vous
dire? C'est une différence, c'est une contrainte, c'est une maladie, c'est une.
Anormalité.
Une anormalité, voilà, quelque chose de. Enfin, oui, bien sûr, Pierre.
Non, mais je trouve que anormalité, c'est beaucoup plus violent.
Oui, parce que c'est Pierre, j'ai oui à tout, à Pierre. Enfin, c'est. Voilà. Mais, non, pardon. Mais je veux dire, non. Pour moi, c'est une. En fait, il a quelque chose qui fait que sa vie vibre. Vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce d'urgence de vie, comme ça, de vibration et qui fait que sa mère s'engage à faire ce genre de choses. Mais il y a des moments où ça se passe mal parce que Paul n'arrive pas à reproduire des parfums, enfin à créer des
parfums.
C'est
du 50-50 hein, à peu près. Hein, c'est ça.
Oui, c'est tant qu'on lui demande de reconstituer le parfum du marché de l'île sur la Sorgue, par exemple, ça va.
Voilà. Rome, ça va aussi.
Rome, ça va aussi.
Même si y a la vanne qui passe mal.
Ouais. Mais quand d'un coup le môme demande à ce qu'on lui fasse le parfum du film Star Wars,
ouais,
par
ça,
exemple.
Génial.
Vous allez directement au climax de la pièce. Hein,
ouais.
Allez directement à la fin, à la chute.
C'est pas vraiment le climax.
Ah, quand même. Si, c'est pas à la fin, mais c'est.
Ouais. Mais les gens ont.
Il y a d'abord l'histoire d'amour. Amsterdam. Où là, c'est particulier et on retrouve la vanne de Tom sur comment reproduire les parfums d'amour ou les parfums d'une femme. Et c'est l'exercice.
Ah, c'est pile dedans, oui, effectivement.
Auquel vous
et moi, allez... j'avais beaucoup de doutes quant à ce passage de la pièce, parce que c'est quand même vachement particulier. Que tu sais, quand tu vas voir la pute à...
La prostituée, toi.
La prostituée, oui, quand je vais voir la prostituée.
Ah oui, moi, je vais la voir aussi, bien sûr. Oui,
je me suis dit, mais comment ça va passer au public, tout ça. Et alors, c'est hallucinant de voir comment les gens...
Dans le texte, il est dit, en tout cas, c'est la première fois que vous payez
cette prostituée
pour la renifler.
Pour être sentie, oui.
Voilà,
ouais, c'est ça.
Et pour avoir son odeur.
Hein.
Et vraiment, déjà, pour mettre en scène ça, on s'est dit, mais comment ça va être possible? Et en fait, c'est un des moments que les gens, elle, en plus, emmerdée pour amener son fils là-bas, qui est en fauteuil roulant, donc il faut monter des marches et tout. Je me suis dit, les gens vont ronfler et tout ça, c'est un des moments que les gens préfèrent. Quoi.
Tous les bordels ne sont pas équipés.
Et bien, justement.
Elle est équipée, elle a une rampe d'accès. C'est génial, une rampe d'accès. Et en plus, là, je fais une petite petite parenthèse, le sexe est un vrai problème pour les personnes handicapées. Hein. C'est vraiment France.
On n'a pas le droit de dire handicapé, Clémentine. Hein,
mais Daniel me le disait hier.
Mais il y a des assistantes qui sont.
Mais pas en France, tu sais, vous savez. Daniel va en parler. En France, c'est interdit. C'est continué comme est considéré comme de la prostitution. Si, c'est illégal.
Ça existe.
Moi, j'ai des copains de vestiaire.
Non, mais on a déjà parlé sur le Téléthon. Les adultes aussi en fauteuil ont le droit à une sexualité. Il y a des et il y a des assistantes de vie qui
on trouve des subterfuges.
Absolument. Si vous voulez masturber des gens, vous pouvez vous inscrire.
Ah, oui. Alors il y a un parallèle moi avec la pièce de théâtre. J'ai pensé à Peau d'âne. De même que la princesse demande à ce qu'on lui crée une grotte couleur du temps, des choses un peu impossibles tout d'un coup quand il faut recréer justement avec un parfum, un souvenir. Votre personnage est confronté à en effet l'impossible et tout d'un coup à devoir mettre en branle toute son imagination, toute sa pensée. Ça suffit avec les garçons. C'est incroyable. Dès que je dis un mot qui pourrait connoter sexuellement, et
on va dire que c'était pas le moment.
Voilà, c'était pas le moment.
Juste pas le moment.
Si, c'est toujours le moment. C'est toujours le moment. Et Pierre n'a pas ri. Voilà, Pierre m'a regardé. Merci, Pierre.
Quel focus. Les acteurs sont magnifiques.
Oui, mais au moins il fait croire, il fait bien croire.
Comédien.
Donc il y a ce parallèle-là, je trouve, avec Peau d'âne, et je me demandais quel était votre rapport à vous.
Bien sûr, autant.
Tu es allée toute seule dans la vanne.
Hein.
Votre rapport
à l'âne.
Bonsoir, Daniel.
Votre rapport au souvenir olfactif, est-ce que vous en avez justement?
Oui, alors moi j'ai terrible, pardon.
Moi
je suis née en Afrique noire, je suis née à Dakar, et quand on faisait beaucoup d'allers-retours avec maman, et je me souviens toujours de ce moment où dans l'avion il y a la porte qui s'ouvre et là t'as l'air de l'Afrique, cet air comme ça chaud, comme ça incroyable, magnifique, un parfum
chaud et sec aussi un peu.
C'est incroyable cette sensation, et là on est vraiment, je sais pas, c'est quelque chose de cette chaleur, ce truc, voilà, ça c'est très important, voilà. Donc voilà.
C'est vrai que l'odeur, a une importance considérable dans nos vies.
Vous avez incroyable. Un souvenir, vous, aussi, bien, vous associez un parfum. Est-ce que c'est un parfum que vous portez à un élément, un événement, une femme, des rencontres, ou éventuellement
une femme que vous portez lors d'un événement?
On a perdu Pierre-Emmanuel Barret, de toute façon, c'est foutu.
Mais dès qu'on parle d'odeur, je pense à des trucs dégueulasses.
On veut pas connaître la soirée d'hier.
Excuse-moi.
Ou je sais pas une odeur de cuisine, quelque chose qui vous rappelle.
Moi, je suis très sensible aux odeurs de cuisine.
C'est plutôt la bouffe.
Ah oui, moi c'est la bouffe. Ouais. Ouais. Moi j'adore cuisiner. Enfin, j'essaie de vous occuper. Ouais. J'adore faire la cuisine. Ouais, faire des sauces, émincer des oignons.
Non, mais c'est vrai. Un truc en particulier, un exemple en particulier.
Ah, un bon poulet basquez, par exemple.
Des crevettes.
Clac. Voilà, moi je.
Ça, l'odeur de ça tout de suite.
Ouais. L'odeur du mélange du vin cuit.
Sinon,
avec les oignons.
On a tous des odeurs.
Ça vous passionne pas, Nagui, j'ai l'impression.
On a tous des odeurs en commun.
Ouais, certains plus que d'autres.
Par exemple, l'odeur d'un livre neuf.
Ah, j'adore.
C'est formidable l'odeur d'un livre neuf.
J'adore. Ça, rien que ça donne envie de lire.
Je sais pas si c'est le mélange de l'encre, du papier, d'où vient cette odeur, mais elle est bien précise.
Les poches, les livres de poche. Presse pocket, c'est génial.
Non, c'est vrai. Il y a une odeur du bouquin.
Moi, par exemple, je suis en train de m'ennuyer, je lis un bouquin de la collection Babel, je m'ennuie parce qu'il sent pas bon.
Non, mais il est très beau.
Est-ce qu'au théâtre, il y a une odeur? Est-ce que les coulisses d'un théâtre, le bois, le velours, le rideau, tout ça, est-ce qu'il y a une odeur?
Moi, j'ai un souvenir du théâtre Antoine, par exemple.
Ouais, vachement.
Mais vraiment. Alors, et c'est marrant parce que j'avais pas pensé que c'était le parfum, l'odeur. En fait, si, parce qu'il y a un truc de bois, beaucoup. Il y a des endroits quand on va en tournée où le béton n'a pas vraiment de parfum, quoi, d'odeur. Enfin, c'est franchement, je sais pas ce que t'en penses. Mais c'est vrai qu'on n'identifie pas ça tout de suite.
Pierre, quand il ne pense rien, il est d'accord. Depuis le début d'émission, chaque fois il dit oui, je suis d'accord.
Attendez, moi je suis super content d'être là.
Et après, vous pouvez rester, vous pouvez même revenir.
C'est même une chance. Non, je vous dis, c'est une chance. Franchement, moi je suis. Non, attends, parce que je veux vraiment le dire. Moi je vous écoute tous les jours. Je suis hyper heureux de vous voir en vrai. Je trouve que c'est.
Vous êtes déçus?
Non, pas du tout. C'est vraiment tout l'esprit de Paris ici tous les matins, j'adore. C'est l'élégance, c'est l'humour.
Qu'est-ce que tu fais, machin? Moi j'embrasse Laurent. Florence, hein, c'est ma copine de palace, hein, ouais. Florence Bloch, votre patronne. Voilà, c'est et donc et je voulais vous dire que la pièce
sans... copine de palace quoi,
vous étiez en boîte, on allait en boîte tout le temps avec Florence, c'était ma copine. Allô, tu viens, on va au palace danser.
Ah, oui. Mais elle le sait, et ah, mais, pour, oui. Mais vous est-ce pourquoi elle a gardé sa coupe de cheveux des années 80
parce que moi aussi parce que
non, arrêtez, on parle de quelqu'un que personne identifie chez les auditeurs, donc à ses sons de parler de Florence Bloch.
Ils vont sur Google,
c'est dégueulasse.
Sur Google ça ça
je voulais juste vous dire que la oui, on l'embrasse, pardon, pardon de vous couper, c'est que la pièce sent, enfin la pièce a un parfum. Il y a un parfum dans la pièce.
Ah, expliquez-nous.
Qui a été créé.
Le parfum de Darius.
Darius.
Oui.
Donc, alors
qui a
ça,
été
c'est
créé
la chute.
Par Blaise Motin. Non, non, non. C'est pas la chute. La chute, elle est différente.
Qui est diffusée dans la salle et tout.
Oui. Ouais. Ah, c'est juste pour dire que c'était des... Oui.
Non, la chute, vous avez la fin du spectacle, chute est vachement... Non, non, je vais pas la dire. Oui. C'est vachement beau. C'est vachement poétique comme idée.
C'est vachement beau.
Et ça incarne... Vous en foutez complètement. Quand vous êtes d'accord, vous en foutez.
Non, c'est pas ça.
C'est, que c'est parce qu'il l'a pas lu.
J'hésitais. Si, aussi, au contraire, j'ai failli mordre d'ailleurs la chute. Mais en même temps, on peut dire clairement qu'il y a des parfums, notamment quand on a aimé un homme ou une femme dans sa vie et que cet homme ou cette femme portait un parfum bien précis, on a du mal à croiser une autre partenaire avec ce même parfum quand c'est une marque, je veux dire.
Un chien.
Alors écoutez, votre vie privée.
Non, je vois par exemple, moi j'avais un chien, mon chien Pomme par exemple, mon chien est mort, j'ai repris Jean-Jacques, qui est un petit équel à poil dur, et ben j'ai eu du mal à m'habituer à son odeur, et maintenant, clac, j'y suis.
Oui. Non, c'est vrai. C'est vous qui avez décidé de l'appeler Jean-Jacques?
C'est moi, oui.
C'est bien, Jean-Jacques.
Pour un chien.
On
pourrait tamiser les lumières ici. Et que sent le parfum de Darius qui a été créé donc pour la pièce qui est diffusée dans la salle?
Qu'est-ce que tu dirais?
Parce que décrire un parfum, c'est pas facile.
C'est celui-là?
Non, c'est pas celui-là.
C'est pas celui-là, ça c'est pour vous.
Ça c'est un cadeau pour vous acheter comme ça.
Un cadeau de Durance et tout ça. Il y a Blaise Motin et Durance qui sont tous les deux partenaires du.
C'est Nagui qui sentait le plus fort.
C'est un truc poivré, c'est un truc très poivré, du musc et tout.
Sent le corps aussi, qui a l'odeur.
J'adore. Non, mais puis on en revient à Proust. C'est vrai que l'odeur de ce qui était soi-disant des madeleines et qui finalement était des biscottes.
Biscottes.
Dans la réalité,
super spectacle.
Peu importe. renvoyer à l'enfance et à cette recherche du temps perdu. Donc c'est vrai que l'odorat est très, très, très présente. Mais il y a aussi le combat d'une maman pour que son enfant ait des joies vives et des plaisirs, ne gagne ne serait-ce qu'un jour de vie.
Et si je peux me permettre, bouge-toi les oreilles, Clémentine, mais quand ça, c'est joué par Clémentine, c'est juste... je peux pas m'empêcher de penser à une belle actrice comme l'était Annie Girardot, qui avait cette espèce de puissance, de vie, d'appétit de vie, et avec on sent à l'intérieur tout un truc qui est en train de vaciller, de trembler, et le sourire qui est en... Quand Clémentine, à la toute fin du spectacle, et à cette T'as cette puissance-là qui est juste, qui moi, et je suis comme ça, ça me donne la chair de poule. C'est vraiment magnifique.
Puis quand on est avec Pierre Cassignard, je dis pas ça parce que.
Je suis vraiment sincère. Je suis quasi.
Elle ne le joue pas, elle le vit.
Je suis quasi spectateur de Clémentine tous les soirs. Et franchement, je te le vois.
Bah, c'est une pièce. Au point d'être troublé.
Ah ouais, je vous assure. Ouais.
Mais du coup, vous payez votre place ou pas alors?
Et Darius, la pièce est de Jean-Benoît Patricot. Je ne crois pas qu'on l'ait beaucoup dit. Mise en scène par Anne Bouvier, on en a parlé, au Théâtre des Mathurins à partir du 24 janvier. Lorsqu'on vous annonçait, Leïla, la venue de Pierre Cassignard et de Clémentine Sélarié, vos oreilles ont sifflé.
Oui, c'est immédiatement, quand j'ai pensé à vous, Clémentine, j'ai pensé à la pièce Dans la peau d'un noir, une pièce créée, présentée à Avignon. Et en cherchant des extraits de la pièce pour le donner à entendre, je suis finalement tombée sur un slam d'une jeune femme que l'on a pu entendre dans un documentaire diffusé sur Canal+, et je me suis dit que ça allait vous plaire.
Le code noir, censé protéger les esclaves sous Louis XIV, coup. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Leur. Chanson scandée à ma mère, par toute une cour d'école. Une négresse qui buvait du lait. Ah, se dit-elle, si je le pouvais tremper ma figure dans ce bol de lait, je serais plus blanche que tous les Français. Coup, leur. Se sentir étrangère dans son département, son pays d'origine. Coup. Se croire belle parce qu'on est claire, imaginant en son fort intérieur que ce teint est une bénédiction. Leur. Quitter son pays natal, sa famille et ses amis pour épouser l'homme blanc, rêver d'une vie paisible. Et se retrouver dans le Larzac avec un vieillard vent tripotant qui recherchait non pas l'âme sœur, mais de la main d'œuvre gratuite, coup.
Voilà, c'est un extrait de Flamme.
C'est beau.
C'est une jolie chanson.
Ouais, mais c'est la souris verte adaptée et entre guillemets, dans des moments un peu reculés ou pas si reculés que ça dans le temps, en fait, où on faisait remarquer.
Toujours,
malheureusement. C'était une époque.
Mais merci. Le temps béni, tu veux dire.
Mais lisez dans la peau d'un noir de John Howard Griffin. C'est un bouquin incroyable sur l'amour, toujours. C'est ça qui est beau, c'est de tirer toujours de l'amour de ces horribles moments, quoi. De se dire, allez, avec l'amour, on peut et s'ouvrir. Et, bon, mais merci, c'est très chouette. Et,
l'amour est souvent la solution, ce qui est aussi le cas dans Darius. Hein,
c'est... Oui, c'est ça. De se dire que si on a, et on est en vie, en fait, tout est possible. Mmh. Je pense aussi à des copains qui sont atteints de certaines maladies. Et c'est pour ça que le handicap, tu vois, enfin, vous voyez, c'est pour ça que je... Mais c'est vrai que quand on est, on peut échanger, parce que ce que dit Pierre, il me le dit par rapport à moi, c'est très gentil dans la pièce, mais c'est parce qu'il est comme ça, lui. On est, c'est le regard et c'est l'échange, c'est le fait de se dire qu'il y a toujours... Bon, c'est cucu ce que je dis, hein. Mais enfin, je le prends sincèrement. C'est le fait que c'est vrai que quand, par exemple, les gens dans ce bouquin dans la peau d'un noir, les gens qui ont le plus d'humanité, de trésors dans ce livre, c'est des personnes qui sont noires, qui sont dans une petite famille, qui sont dans une espèce de jungle et qui ont tout. Il tombe un jour, le héros, sur ces personnes-là. Il est transformé en noir. Donc, il est noir, en fait. Et il tombe sur... J'espère que vous me suivez.
Ouais.
Il tombe sur cette famille. C'est des gens qui n'ont rien. Qui n'ont absolument rien. Juste, ils dorment tous par terre. Il y a une famille à 4 enfants. Et en fait, ils ont tout. Parce qu'ils ont l'humanité, ils ont le sourire, ils ont une lumière qui est exceptionnelle. Et c'est ça à quoi je pense quand il y a des gens malades ou handicapés, mes copains de vestiaire, qui sont des...
Ouais.
Cette série sur France 2 qui est magnifique, il y a une lumière incroyable parce que c'est ce combat et cette force. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette pièce. C'est pour ça que Pierre est là, parce qu'il a cette humanité, cette truc d'émotion. Enfin voilà.
Et en fait, je vais faire court, mais moi, ça me fait vraiment penser à ce que ça nous demande, nous comme acteurs, cette pièce-là. Je suis sérieux 2 secondes, sans déconner. Mais quand on joue, par exemple, des trucs Goldoni, Marivaux, Tchekhov, tout ça, on a même les soirs où on est un peu naze, un peu fatigué, où on joue 2 fois de suite, on a une espèce de on a le personnage qui nous tient. Il y a la technique, il y a le machin. Pour ce spectacle-là, on l'a joué que 20 fois pour l'instant. Il y a ça ne demande qu'une chose. Alors on doit le faire tout le temps pour toutes les représentations théâtrales, c'est faire croire aux gens que ça n'arrive que ce soir-là, à ce moment-là. Mm-hmm. Mais là, vraiment, on est tous les deux, on est vraiment à poil. C'est vrai, on n'a rien, on ne peut se raccrocher à rien, si ce n'est...
C'est physiquement plus éprouvant.
À notre, c'est-à-dire à ce dont tu parlais, tu sais, au minimum. C'est-à-dire qu'on n'a rien et on
donne tout.
Vous
ne sortez pas indemne le soir de cette pièce ?
On peut pas. Franchement, on ne peut pas. Et franchement, je n'aime pas faire l'acteur qui fait gna gna gna.
C'est ça qui est chouette.
Mais c'est ça qui est top.
Oui.
C'est ça qui est top.
Pour ça que les places coûtent aussi cher ?
Oui.
D'accord, c'est justifié.
Ça coûte cher ?
Mais non,
je ne sais pas.
C'est qu'une vanne, c'est qu'une vanne, Clémentine.
Ah oui, d'accord, pardon.
On poursuit avec vous, Pierre Cassignard. Quand je pense à vous, je vous revois sur scène aux côtés de la majestueuse Pascale Arbillot et de la non moins majestueuse Léa Drucker dans Un amour qui ne finit pas d'André Roussin, mise en scène par Michel Faux. C'était au Théâtre de l'Œuvre.
Michel Faux aussi, une odeur particulière.
Ah oui ?
Un parfum particulier, Michel Faux.
Son parfum naturel ?
Parfum baroque.
Alors c'est une pièce que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site Culture Box, en faisant mes recherches.
Ouais, et vous savez quoi ?
Ouais.
Parce que j'ai regardé les petits bouts, parce que ça arrive rarement, elle est vachement bien captée.
Elle est très bien captée, ouais, moi aussi. Et donc on mettra le lien...
Aussi, t'es bien captée ?
Ouais, plutôt bien. On mettra le lien sur la page du site. On écoute un petit extrait.
Eh bien, alors je pense que maintenant cette aimable plaisanterie va prendre fin.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Enfin, tu vas pas continuer à te laisser écrire tous les jours une lettre d'amour.
Il demande pas autre chose, remarque.
Oui. Enfin, je veux bien, mais enfin, dans cette lettre-ci, il t'annonce son retour à Paris. Donc là, il va plus t'écrire, il va chercher à te rencontrer.
Ah, je ne crois pas.
Mais voyons, mais Juliette...
Mais quoi ?
Enfin, écoute, à quoi joues-tu, là, en ce moment ?
Mais à rien du tout, mon chéri. Il sait que je t'aime. Il n'a nullement l'intention de me faire la cour, tu vois bien ses lettres d'ailleurs.
Alors écoute, mon chéri, moi je voudrais bien ne pas jouer un personnage trop conventionnel, mais alors si tu continues à trouver ça normal, là quand même tu vas m'obliger à le faire.
Voilà, un extrait d'Un amour qui ne finit pas. C'est un rôle que vous avez joué d'innombrables fois, puisque la pièce a...
Ouais, par exemple, Darius, c'est tout sauf... Ça, c'était génial. Ouais, moi, ouais. J'ai adoré jouer ce spectacle avec ses copains, Michel, Léa, Pascal. Et, mais alors là, c'est l'anti-Roussin, quoi. C'est vrai.
Non, parce, oui. Là, parce que là, on est bardé.
Là, puis alors, j'entends les boudouilles. Ah bah, c'est Louis de Funès là.
Et ben, c'est vous tout vous sauf, n'aimez pas vous entendre.
C'est tout sauf ça, quoi.
Vous n'aimez pas vous entendre ?
Non, mais je crois que personne, quoi.
Non, mais là, cet extrait-là vous a gêné.
Non, c'est-à-dire que coupé du tout, du contexte, oui, on se fait.
Pas terrible, mec.
Oui, on va faire l'intégralité, ça dure une heure et demie. En tout cas, vous étiez très, très bien sur
c'est
scène,
gentil.
Je trouve vraiment. Ah, et puis, c'est toujours un plaisir.
Là, c'est vrai que c'était un peu gênant.
De vous voir. Comment il te met à l'aise. Et donc, moi, je suis ravie de pouvoir vous revoir bientôt au théâtre.
Ouais, c'est
voilà,
gentil.
Voilà.
Nous avons maintenant l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Mais si, de Pierre-Emmanuel Barré. Attention, attends.
J'ai une blague. Qu'est-ce que c'est François Fillon qui fait miaou? C'est un sacré fils de pute. Plam. 1-0 pour l'humour. Attendez, j'ai plein de blagues de chat. Vous savez où? Dans ma sacoche. Bam. Vous en avez une autre? Vous en aurez pas, c'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui, on va parler de demain. Jingle. Demain c'est très très bien, parce que le soir il y a le grand débat des primaires de gauche avec 6 hommes, une seule femme, et en plus ils sont tous blancs. En fait c'est pas vraiment un débat, c'est plutôt un gangbang au Ku Klux Klan. Alors, les primaires de gauche c'est très important, hein, puisque après le vote on saura enfin qui va avoir l'honneur de se faire éliminer au premier tour de l'élection présidentielle. Hein. Fillon et Le Pen ils vont être devant le débat comme un touriste devant une vitrine à Amsterdam. Plouf, plouf, je sais pas sur qui ça va tomber, mais je vais bien t'enculer. Hein. En plus, vous remarquerez que les mecs précisent bien primaire de gauche. Hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident du premier coup d'œil. Hein, quand sur un poulet basket sous vide, ils se sentent obligés d'écrire avec du vrai poulet dedans, hein, parce que ça se voit pas directement, tu te méfies, tu sens quand même qu'on va te faire bouffer de la merde. Moi, j'aurais été ministre sous Hollande comme Valls, Payon, Hamon, Pinel et Montebourg, je serais gêné de participer à une primaire de gauche. Hein. J'aurais l'impression d'être à la frontière thaïlandaise, déguisé en bénévole de Médecins du Monde avec 50 kilos de coke dans ma valise et une fausse moustache qui se décolle. Non, je serais pas bien. Hein, j'aurais des sueurs froides, je serais merde. Ça va se voir que j'essaie de les niquer, je vais me faire griller. Mais même pas, putain. Les mecs, ils assument complètement, aucune gêne. Pas une boule au ventre, pas une goutte de sueur sur la tempe. On dirait Kaiser Soze qui a mis du Ménène 48 heures. Hein. Si la politique s'était basée sur le mérite, les primaires de gauche, ce serait comme la chatte à Morano, il n'y aurait personne dedans. Hein. Oh. Hey, Sylvia Pinel, t'as été ministre du logement, il y a toujours des SDF, tu dégages. Benoît Hamon, t'as été ministre de l'économie solidaire, l'économie est toujours pas solidaire, tu dégages. Vincent Payon, t'as été ministre de l'éducation, il y a toujours des fans de Kev Adams, tu dégages. Manuel Valls, t'as été Manuel Valls, tu dégages. Hein. Cessez de vous acharner, bordel. C'est incroyable, les mecs ne comprennent pas qu'on ne veut plus voir leur gueule. Ils s'accrochent alors qu'ils devraient être partis depuis des années. Et c'est les primaires ou l'élection du meilleur sosie de Vincent Lambert? Non. Et comment faut vous le dire? Vous êtes des gros mauvais, les gars, vous ne servez à rien. On vous enfermerait dans une pièce avec des toilettes grandes comme le Pakistan, vous seriez foutu de chier sur la moquette. Vous êtes nuls, putain, vous êtes nuls. Réunir autant de Français nuls pour choisir le nul qui va perdre, on dirait la primaire de l'Eurovision. Mais cassez-vous, putain! Partez en vacances, passez votre permis poids lourd, mettez-vous au puzzle, allez vous couper les ongles, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez vraiment vous ridiculiser à la télé, faites pas un débat, inscrivez-vous à N'oubliez pas les paroles. Arrêtez de croire qu'on s'intéresse à vous. Moi, quand je vous vois squatter ma télé 24 heures sur 24 pour qu'on vous élise, j'ai l'impression d'être coincé dans un vol Paris-Sydney à côté d'un trisomique qui me dit « Tu veux être mon ami ?» et qui me présente sa collection de pins parlants de Thierry Roland pendant 17 heures. Hein. Non, Manuel, je ne veux pas être ton ami. Tu baves sur mon épaule depuis le décollage. Pendant la démonstration du gilet de sauvetage, t'as demandé « Où étaient les palmes ?» et quand le commandant de bord a dit qu'on pouvait enlever sa ceinture, t'as dit « Peux pas, j'ai un jogging !» Et je vais être franc avec toi, Manu, s'il y avait une manivelle pour baisser le petit hublot comme dans les voitures, ça fait longtemps que t'aurais atterri. Non, on se fout de notre gueule. Hein. Moi, je sais pas ce qui m'énerve le plus, les 7 blaireaux qui vont débattre demain soir ou les 4 millions de connards qui vont regarder. Merci de m'avoir écouté.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Ça soulage Clémentine ou pas?
Ah, j'adore. Alors ça, vraiment, c'est... Quelquefois, on a peur de certaines questions. Si tu pouvais me passer ton papier, comme ça, quand on me demandera « Que pensez-vous en ce moment de la politique Clémentine ?» Ben, je dirais toute ta chronique.
Par exemple. Voilà. On embrasse quand même Nadine Morano. Qui...
On embrasse tout le monde.
Mais elle a pas de chatte, hein, moi, je voulais vous le dire.
Mais elle a une belle odeur.
Pardon.
Mais vous êtes fou.
Oh bah attends, mais je,
voilà. Est-ce qu'on peut retirer mon nom du générique?
Je prends un pseudo.
Darius, ça sort à partir du 24 janvier prochain au théâtre des Mathurins avec Clémentine Célarier et Pierre Cassinière qui sont nos invités. On a pris quelques dates que l'on a mises en musique justement parce que c'est vrai qu'il y a que les odeurs évoquent des lieux, des rencontres, des personnes, mais la musique aussi accompagne souvent nos vies. Comme par exemple, Clémentine, vous écoutiez dans les années 86-87.
Lorsque tu me liras, Christine, je te regarderai dans le pare-brise. Tu viendras à moi tout entière comme l'homme. Lorsque tu me liras, ma maison sera silencieuse et mon silence à moi te remplira tout entière aussi. Avec toi, dans toi, je ne suis jamais silencieux. C'est une musique très douce que je t'apporte. Quant à toi, tu verses au plus profond de ma solitude cette joie triste d'être, cet amour que jour après jour nous bâtissons en dépit des autres, en dépit de cette prison où nous nous sommes mis, en dépit des larmes que nous pleurons chacun dans notre coin, mais présents l'un à l'autre. Je te voyais ces jours-ci dans la lande là-bas, tu sais, je t'y voyais bouger, à peine te pencher vers cette terre que nous aimons bien tous les deux, et tu te prosternais à demi, comme une madone. Et je n'étais pas là, ni toi. Ce que je voyais, c'était mon rêve. Ne pas te voir, plus que je ne te vois, je me demande la dette qu'on me fait ainsi payer. Pourquoi ?
On va tout écouter jusqu'au bout. On n'en a malheureusement pas le temps, mais c'est impossible de l'interrompre non plus.
C'est dur de couper Francky Vincent.
Oh, ta gueule. Je rigole.
L'exorciste, c'est la beauté.
Lorsque tu me liras, Léo Ferré, comment se... Oui. Ce moment est rentré dans votre vie ?
Par mon fils, en fait. Mon dernier fils, qui a 24 ans, et qui me l'a fait... en fait, j'ai triché, parce que j'ai une passion pour Léo Ferré. Cette chanson a été écrite pour sa femme, que j'embrasse, que j'ai la chance de connaître, que j'ai rencontrée. Je me suis rapprochée de la famille de Léo Ferré. Je n'ai jamais rencontré lui, mais... Et donc, c'est mon fils, qui a 24 ans, qui a une passion pour Léo. Il m'a fait entendre ça, et je trouve que les paroles sont d'une beauté, enfin...
Bouleversante.
En plus, c'est tellement... C'est plein de force et de puissance, et tu vois, c'est pour moi, c'est lié à ce que tu as écrit, enfin...
Excuse-moi.
Mais non, mais si, parce que c'est la rage, le cri, la liberté, putain, cette liberté qu'on perd dans tout en ce moment, et pour moi, Léo Ferré, il représente ça, quoi, cette pureté, cette poésie, cette créativité, cette invention, et c'est pour ça que c'est très émouvant, et que je trouve ça magnifique, c'est un exemple pour moi, Léo Ferré, aujourd'hui, voilà. Merci Nagui.
Merci à vous d'avoir choisi de nous faire écouter ce morceau. Est-ce que vous, cette liberté ou cette rage de liberté, vous l'avez retrouvée avec des metteurs en scène, des scénaristes, avec des textes qu'on vous avait...
Je l'ai retrouvée là, pour Darius, franchement. Je suis heureuse de vivre ça, parce que c'est parler de choses qui sont essentielles, quoi, qui sont très vivantes, qui sont... dans lesquels il y a plein d'émotions, être avec des gens vrais, comme Anne Bouvier, c'est quelqu'un, c'est une metteur en scène, hein, une actrice géniale qui a été nominée, qui a eu le Molière, et qui est une fille qui est rare parce qu'elle veut du beau. Vous voyez, elle veut faire des belles choses, parce qu'aujourd'hui, c'est le beau dont on a besoin. C'est pas toujours rire. C'est-à-dire qu'on a besoin de projeter, d'avoir une vision, d'un espoir sur de la beauté qu'on peut faire, à laquelle on peut croire, quoi. Enfin, il y a Charles Pépin aussi qui est un philosophe qui parle de ça très très bien. Mais je sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais en tout cas, voilà, c'est le projet aussi, c'est de croire, d'avoir un. Mais je sais plus la question que vous m'avez posée, Nagui.
Si, c'était est-ce que vous aviez retrouvé cette liberté? Apparemment, oui, vous l'avez retrouvée.
Oui, en tout cas, je la cherche et je la veux et je.
Et c'est votre moteur.
Et c'est un moteur. Bah oui, c'est.
Dans ces années 87, c'est New York que vous écoutiez, Pierre. Ouais.
Pour entrer dans la ligne de rock, un nouveau départ, solide comme un roc, une pluie dorée, ici, New York.
Est-ce que c'était la musique qui vous accompagnait lorsque vous étiez à la rue Blanche? Est-ce que c'est la musique qui vous accompagnait lorsque vous étiez sorti de cette école, que vous retourniez à Bergerac sans trop savoir ce que vous alliez faire de votre vie?
Ouais, exactement. Ouais. C'est une musique que je trouve géniale pour déjà Nougaro à l'époque. C'était son comeback quand il était viré de sa maison de disques. Ouais. Il revient, le petit taureau revient, et je trouve que c'est une chanson super quand on a un petit coup de mou. Je pense à quelqu'un par exemple en ce moment qui doit. Je trouve que ça regonfle à bloc. Je pense à Mado ce matin, que j'embrasse, qui a besoin d'être regonflé à bloc. Et par exemple, d'écouter ça, je trouve que c'est un truc
qui redonne goût à la vie.
Qui redonne la patate, ouais. Et donc, c'est vrai qu'en retournant à Bergerac, cette fois la grande, j'écoutais ce genre de truc, ouais.
Comment vous avez fait la connaissance de Philippe Torreton, qui était votre coloc après?
Philippe, on a été colocataire, on est parti en vacances au conservatoire. Au conservatoire.
Vous n'avez jamais douté de ce que vous vouliez faire comme
Non, parce que je sais pas.
C'est votre passion, ça vous.
Ouais. Je n'ai vraiment toujours existé qu'à partir du moment où je faisais rire.
Vous n'avez jamais douté de Torreton?
Si.
Sur son loyer, vous voulez dire?
Non, pas du tout.
96, 97, Clémentine Célarier, écoutez.
Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara, como el agua.
Comme à l'agua, c'est le titre. El Camarón de la Isla.
Merci Nagui, hein, c'est génial. Ça, c'est les gitans, hein, c'est le l'âme, c'est très lié à Léo Ferré, hein, c'est la même liberté, c'est la violence des mots, de savoir définir. El Camarón de la Isla, ça veut dire petite crevette de l'île. Et les gitans, ils ont cette espèce de... J'embrasse d'ailleurs les Romanès, qui sont des amis, qui ont beaucoup de soucis, Alexandre et sa femme, Edelia Romanès, qui sont très attaqués très souvent, alors que ce sont des gens qui ont un cirque magnifique, qui représentent la poésie et la vie et la liberté aussi. Et puis ce truc du mouvement qu'ont les gitans...
Mais quand ils sont attaqués parce que justement, ils défendent cette liberté, ou parce que simplement, ils incarnent tout ce qui... dans le rocher.
Ils s'installent dans les mauvais quartiers, c'est ça aussi. Il y a des plaintes de l'entourage et des quartiers où ça
oui,
se passe, notamment
oui,
à Paris. Ouais.
Oui. Et puis il y a un mélange qu'on fait, enfin comme on fait des amalgames oui. Incroyables entre tout le monde. Les gitans que moi j'ai rencontrés, les Cortés qui habitent à Nîmes, qui sont des gitans sédentaires, francisés, mais qui viennent d'Andalousie, c'est des êtres absolument exceptionnels et qui ont cette espèce de bouillonnement comme ça de force d'expression. Moi, j'ai deux copains qui sont routiers, en fait, qui peuvent pas vivre de leur art et qui sont des chanteurs. Enfin, dont un, Georges, qui est un chanteur exceptionnel. Antonio Cortés lui fait de la guitare. Enfin, moi, j'ai des souvenirs et je vis encore maintenant. Si j'entends une guitare et du flamenco, ça va. S'il y a des trucs comme ça, c'est comme la funk, c'est comme Léo Ferré, c'est comme Michael.
Si ça Michael vous fait vibrer, quoi.
Bah oui, c'est des trucs. C'est voilà. Et c'est magnifique. Et l'esprit. Et je pense qu'il faut. Voilà. C'est quand on entend ça, c'est voilà. C'est...
Ces années-là sont les années aussi de vos premiers de vos premières chansons. Vous n'avez pas douté de la voie musicale vers laquelle vous alliez? C'était forcément cette musique-là qui...
Non, c'est la funk et ça, la soul et ça. Donc maintenant, je continue. Je vais faire un autre album, là, sûrement avec mon fils aîné maintenant, qui est grand, qui a 31 ans, et qui... Abraham. Et donc, on va travailler là-dessus. Mais moi, j'aime les influences, quoi. Gitane, mais j'avais été chez vous. Vous vous souvenez, dans Tratata, c'était génial. Et puis, j'aime bien mélanger. Voilà, toute l'influence soul et le flamenco et l'espagnol et l'anglais. Enfin,
c'est la vie. C'est la musique. Elle est
et aujourd'hui,
ça.
C'est vachement plus facile de faire ça que quand on
était, c'était un vrai combat avant.
Des bébés.
Absolument. Dans ces années 96-97, Pierre Cassignat, écoutez.
Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas t'aider.
C'est parce que vous fumez, c'est pour ça? C'est parce que vous fumez.
Et puis je fume.
Pink Martini, je veux pas travailler, je fume.
Ouais, non, je pense à tous les gens qui sont dans les bureaux, parce que j'ai salué ma mère tout à l'heure. Là, c'est ma sœur, Cécile, qui doit s'emmerder dans son bureau, là. Et je lui dis, tiens, bah, écoute, parce qu'elle est folle de vous, Nagui.
C'est gentil, je l'embrasse. Ouais, ouais.
Et donc, j'ai dit, bah, je te ferai un petit coucou et je l'embrasse. Et je pense à tous les gens qui s'emmerdent dans les bureaux, quoi.
Voilà. Comment s'appelle votre sœur? On va l'embrasser.
Ah ouais, embrasser Cécile.
Cécile.
Elle bosse où? À Angoulême.
À Angoulême.
Ah, c'est vrai, moi, je suis d'Angoulême.
C'est vrai, on va parler après.
Ouais, ouais, parce que Sainte-Foy-la-Grande aussi.
97, s'il vous plaît, on est à l'antenne. Vous obtenez le Molière.
T'as Angoulême, t'es prêt à aimer tout le monde. Hein.
Pierre Cassignard, vous obtenez le Molière du meilleur comédien pour votre rôle dans Les Jumeaux Vénitiens de Goldoni. Goldoni que vous avez un peu tensé tout à l'heure, mais qui vous permet d'avoir ce.
Ouais,
ce
ouais,
Molière.
Non, c'est super, Goldoni. Ouais.
C'est un.
Ah, c'était un moment important, ouais.
Qu'est-ce que l'on ressent dans qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce moment-là? Est-ce que c'est j'ai bien fait, je me suis pas trompé? Est-ce que c'est comme font certaines personnes, vous remerciez ceux qui ne croyaient pas en vous parce que ça a été aussi un moteur pour continuer, pour se battre à
faire ce métier? Je vais vous dire, j'étais tellement immature, je crois, parce que j'étais vraiment super jeune, hein, j'avais à peine 30 ans. Et d'ailleurs, je réfléchis pas plus aujourd'hui. Je me laisse porter par les trucs. Donc, quand j'ai entendu mon nom et puis qu'il a fallu monter, je me suis dit, ah ouais, ah bon. Et puis finalement, je me suis dit, non, ils ont pas tort, parce que c'est vrai que je crois que j'étais vachement bien dans ce double rôle, des rôles de frères jumeaux.
Il y a eu des moments où vous avez douté de votre passion, de votre métier.
Ouais, ouais, ouais. Juste après l'école de la rue Blanche, où j'avais rencontré Michel Faux, ce n'est plus longtemps d'ailleurs. Je m'emmerdais parce que je suis plutôt un mec pragmatique, la respiration abdominale, la phonation. Respiration pour un acteur, ça m'emmerde. Et donc, j'ai décidé de plier bagage. Je suis rentré chez moi à Sainte-Foy-la-Grande. Et le lendemain, on m'a rappelé pour passer une audition pour un spectacle. Et j'ai découvert en fait le théâtre avec, c'était Delphine Seyrig. Et j'ai découvert le théâtre par le côté pratique, quoi. Voilà. Et là, du coup, quand je suis retrouvé au théâtre de la Renaissance avec elle, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire.
C'est ça que je veux faire.
Bah,
ouais.
Bien sûr.
Clémentine, vous avez eu des moments de doute, des moments où vous dites, je plaque tout, je laisse tomber, voilà.
Oui, en fait, il y a 4-5 ans, un moment qui était compliqué dans ma vie. Et puis, le fait que, je sais pas, les projets qu'on vous propose, une espèce de convention, que je pensais que mon métier était pas du tout conventionnel. Je pensais que c'était des anges qui, vous savez, qui font un autre monde. Enfin, je suis très idéaliste.
C'était la période drogue aussi.
Ta gueule!
C'est notre relation.
Non, mais vous savez, on peut vite être. C'est vrai qu'on peut vite être dégoûté, pas dégoûté de ce métier, mais
déçu. Déçu par les rapports humains.
Déçu, et c'est pour ça que quand on a des projets, par exemple comme Darius, c'est vrai que d'un coup, on a une chance dingue. Moi, je me brosse les dents tous les matins.
C'est bien ça.
Ça, c'est bien. Ça, c'est
bien. Moi, je voulais embrasser maman et papa.
Okay.
En Bretagne, voilà, puisqu'on embrasse notre famille. Famille.
Maman oui, aussi, famille. Alors on profite. Profite. Papa, maman, famille. À Jeun.
Moi aussi, j'embrasse vos parents.
Darius,
c'est à partir du 24 janvier.
C'est chouette, France Inter.
Et c'est au théâtre des Mathurins. Et comme justement, ça parle de parfum, nous avons demandé à un nez de venir nous raconter comment ça se passe. Dora Bagri-Charnoux, vous êtes du sud de la France, de Grasse. Non, quand même pas de Grasse.
C'est
pas
qui vous impressionne un peu, peut-être. Non, c'est tout qui m'impressionne, c'est pas seulement Nagui. Mais Nagui aussi.
Et encore, on est
tout. Non, on est
c'est
pas du tout
habitué. C'est mon nez qui vous empoisonne, mais il n'y a rien dedans. Non, vous êtes de Grasse. Vous êtes de Grasse.
Non, je ne suis pas du tout de Grasse. Non, je suis pas du tout de Grasse.
Qui est la capitale du parfum.
Oui, qui est la capitale du parfum, néanmoins. Non, je ne suis pas du tout de Grasse.
Et vous êtes donc né NEZ, le métier de nez, comment qualifier ce métier-là? Est-ce que c'est comme on le voit dans la pièce, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de se retrouver à un endroit précis et de recréer le soleil qui vient caresser la nature, une brise qui ramène du sel de la mer et de se dire tout ça je vais le mélanger, je vais en faire une fragrance et vous allez
rendre il les touche la main.
Et vous allez c'est déjà fait. Et ça s'appelle dire bonjour et vous allez retrouver ce lieu-là en fermant les yeux, vous allez retrouver exactement ces mêmes odeurs.
Oui, alors le métier de nez, oui, c'est effectivement une partie de recomposition d'odeurs qui nous inspire. Alors c'est d'abord la reconnaissance, comme vous dites, des odeurs. On sent pas, je sens pas plus de choses que vous, en fait. Mais en fait, je sais ce que je sens, contrairement contrairement
est-ce que c'est comme un
oenologue, ceux qui ne sont pas entraînés.
Comme un oenologue capable de goûter un vin et de décrypter les cépages, de savoir exactement.
Alors la différence avec un oenologue, c'est qu'un oenologue n'a pas ce travail de composition. En fait, on nous sommes des compositeurs et pas seulement des machines à reconnaître.
Ouais, l'oenologue décompose. Voilà, alors que vous,
exactement,
vous
exactement. L'oenologue décompose. L'oenologue, c'est aussi reconnaître. Mais le vin est un produit de la nature et pas un produit de l'esprit comme un parfum peut l'être en fait.
Est-ce que tout peut se retrouver dans un flacon? Est-ce que comme dans la pièce de théâtre, que ce soit des ambiances de ville, des ambiances de lieu, d'adresse, des êtres humains, est-ce qu'on peut tout ramener à un moment donné à son essentiel dans un flacon?
Oui, alors il y a une partie.
C'est une part de poésie.
Oui, exactement. Il y a une part de poésie, il y a une part de fantasme aussi autour de ça. Alors et évidemment on est inspiré par tout ça en fait, tout ce dont parle la pièce, je vous ai entendu parler tout à l'heure et j'ai lu un bout du texte, ce dont parle la pièce c'est des moments de vie, c'est des moments dans lesquels on se trouve, ce sont des villes qui ont inspiré.
Mais vous comprenez que ça peut vous parler d'inspiration sans faire de mauvais jeu de mots avec un nez, vous comprenez que ça peut être lié à une odeur, une inspiration.
Ah mais comment dire ce que Nagui sent? J'aimerais savoir ce que t'as comme note. Daniel, j'ai une note de merde un peu. J'aimerais bien savoir ce que tu sens.
Moi, je n'ai aucun parfum.
C'est vrai?
Je mets rien.
Bah justement, c'est pour ça que
c'est pas bien, ça, Nagui.
C'est pas bien. Je suis désolé.
Non, mais.
Depuis que ma femme est amoureuse, je me suis dit, tiens, je vois, c'est comme ça, on sait jamais.
Et un petit verrou?
Non? Non plus.
Non plus?
Non plus.
Bon, en même temps, il bosse pas beaucoup.
Non, mais en fait, ce travail de recréation d'une pièce, de l'odeur d'une personne, etc., on y met toujours, en tout cas en tant que parfumeur, nos propres émotions aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement là pour recréer, recracher, entre guillemets, une odeur.
Mais transmettre ce que vous avez ressenti.
Exactement, on la mêle forcément à notre histoire, à nos émotions, à ce qu'on a ressenti. Si vous demandez à 5 parfumeurs l'odeur d'une pièce ou d'une personne, vous allez avoir 5 parfums différents. Mm-hmm.
Alors, vous avez justement créé pour
dire.
Pas du tout, au contraire.
Vous avez travaillé pour plusieurs marques. Vous avez créé des parfums pour Cacharel, pour Kenzo, pour Cardin, pour Versace, pour Saint Laurent. Est-ce que ce sont des commandes ou est-ce que, comme on le voit dans la pièce également, vers la fin de la pièce, c'est-à-dire un célèbre né qui dit ne plus vouloir travailler, puis d'un coup il y a une marque qui manque d'idées, qui manque justement d'inspiration, qui vient et qui commence à renifler des flacons qui sont posés comme ça sur une étagère et qui dit tiens, celui-là, on le veut, on y va, lance. Comment ça marche?
En fait, il y a de tout. Il y a tous les cas de figure. Il y a des marques qui viennent nous voir avec un brief, on appelle et qui nous briefent sur une idée très précise.
Alors, ils vous briefent comment, justement? Est-ce qu'ils parlent d'une ville ou est-ce qu'ils parlent d'une odeur boisée?
Ils peuvent parler de tout. Alors, moi, j'ai tout. On a tout. Enfin, j'ai une carrière courte, mais j'ai déjà eu beaucoup, beaucoup d'anecdotes.
Elle est jeune, c'est ça.
Mais on a tout eu, on a eu des souvenirs, on a eu un client qui est venu me voir en me disant j'adore le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et je veux l'odeur de ce film. Je me suis mise, j'ai regardé le film tout le week-end, je me suis enfermée,
Et ça sent quoi ce film?
Ben oui. Ça sent quoi? Alors ça part de la mémoire justement, et j'ai créé une odeur ambrée parce que l'ambre a d'une certaine façon cette odeur d'éternel, mais j'ai créé une odeur ambrée avec une fleur.
Vous n'avez pas vu le film en vrai?
j'ai vu le film.
Film de Michel Gondry.
Exactement. Et j'ai créé cette histoire.
Et alors donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des clients, je parle pas de marque cette fois-ci, vous avez des particuliers aussi qui vous disent je voudrais créer un parfum justement l'odeur de ma maman ou d'un proche, d'une personne.
On a des
commandes comme ça particulières.
On a des commandes et on fait face à des envies particulières. Tout le monde a, beaucoup de gens en tout cas ont ce fantasme d'avoir l'odeur de leur terre d'enfance, l'odeur d'un pays, de la nostalgie. Il y a beaucoup
l'odeur d'une maison aussi, quand on arrive dans une maison, il y a un parfum particulier chaque fois.
Ouais, complètement. Et alors encore une fois, la difficulté c'est de parfois de s'extraire de notre propre histoire, de nos émotions, pour pouvoir être le plus fidèle possible aux attentes de la personne qui nous demande ça. Mais c'est franchement pas toujours facile, mais ce qui fait la beauté aussi du métier de parfumeur.
Vous qui êtes un nez, qu'est-ce qui vous irrite le plus ? C'est ceux qui mettent trop de parfum justement sur eux ? C'est les sapins dans les taxis ou les bougies parfumées
dans les
bureaux ?
Les sapins dans les taxis, terrible. Ça devrait être complètement interdit.
Et les bougies parfumées aussi.
Les bougies parfumées. Non, ouais.
En fait, ce qui
nous irrite, c'est le trop-plein. C'est vrai que le trop-plein nous irrite. Et
vous n'avez qu'à voir quand on rentre chez un parfumier, ça pue. Parce qu'il y a les mélanges de tous les parfums mélangés, c'est insupportable.
Ouais, quand on rentre chez toi aussi. Hein.
C'est ça. Grasse, j'ai vécu près de Grasse. Dès qu'on arrive en voiture et qu'on rentre dans Grasse, ça sent mauvais.
Ça sent les odeurs d'usine.
Parce que c'est un mélange.
Oui, c'est un mélange. Ça sent les mélanges d'usine à Grasse. Ça sent pas la rose fraîche du matin. Ça sent l'industrie, en fait.
Est-ce qu'il y a des modes ?
Mais attention, Grasse reste aussi une terre...
La capitale mondiale exactement, du parfum, on est d'accord.
Et en fait, ça revient. C'était un peu touristique il y a quelques années. C'est devenu un petit peu désuet. Et ça revient, notamment grâce aux maisons de parfum qui ont compris que Grasse est un patrimoine extraordinaire et qu'il fallait qu'on le préserve.
Et mondial, et vous avez raison. Est-ce qu'il y a des modes ? Est-ce qu'il y a des tendances ? Est-ce que 2017, un peu comme il y a des carnets de tendances sur les couleurs, sur les fringues, sur les, sur les meubles, sur les musiques, évidemment, est-ce qu'il y a une tendance du parfum ?
Oui, il y a évidemment des tendances.
Alors 2017 sera quoi ?
2017
boisé, ambré,
j'ai vu sur votre site qu'il y avait c'était le concombre cette année.
Ah oui, hein, le concombre et l'arôme
je vous assure c'est la senteur.
Le concombre et l'arôme de l'année.
L'arôme de l'année,
pas
oui, c'est ça.
Pas le parfum de l'année.
Oui, pardon, l'arôme. Oui, c'est ça.
ça sent rien le concombre, c'est que de l'eau.
Le concombre, c'est à queue, ça sent le vert.
C'est de l'eau, oui, c'est ce que je dis.
Oui, tu rajoutes une petite vinaigrette,
ça sent le propre, ça a beaucoup de parfums notamment masculins. Ont une odeur de concombre pour cette de ce côté frais. Ouais.
Et sur le parfum, j'ai la sensation qu'on ne change pas si régulièrement de parfum que ça. Il y a des gens comme ça qui changent de parfum tous les 6 mois, qui finissent une bouteille, qui en achètent un autre. J'ai la sensation que moi, le parfum, c'est quelque chose sur une longue durée.
Une fois qu'on a trouvé son parfum, on garde.
Oui, je garde 10 ans un parfum et après je change.
Bah, c'est ce qu'on recherche en tant que parfumeur, en tout cas, de créer un parfum que les gens vont adopter pendant longtemps, un parfum qui reste, un parfum pérenne et pas seulement un effet de mode.
Donc les parfums de marque, un petit peu comme ça, souvent c'est des sorties et puis le parfum souvent il n'est pas poursuivi, donc on va racheter un parfum.
Alors oui, c'est vrai qu'il c'est ça
qui est terrible.
C'est vrai qu'il obéit à la loi du marché. Si ça marche pas, ça sort. Si ça marche, et il y a de très très beaux parfums qui sont sortis du marché alors que c'était des chefs-d'œuvre.
Clémentine Zélarié,
vous avez eu des coups de foudre pour des odeurs comme ça? Par exemple, Blaise Botin qui a fait le parfum de Darius Dawn, il m'y a parlé de l'iceberg. Un jour, il m'a dit je vais vous faire sentir un iceberg. Que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est dément de faire sentir un iceberg. Mais en fait, on a senti, c'est un côté métal, un peu froid, soufre. Enfin bon. Et vous, vous avez un coup de foudre comme ça?
J'ai même des coups de foudre assez permanents.
Pour une odeur, la dernière, ce serait quoi comme truc un peu
la dernière,
singulier, étrange.
Une pizza.
J'ai beaucoup de coups de foudre effectivement pour les odeurs
de bouffe.
De bouffe, ouais. Je suis très très
Pierre.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mes deux grands-mères étaient pâtissières, alors je...
Non, mais ça embaume une maison, ça marque un endroit.
La fleur d'oranger dans le gâteau.
Je suis fan de fleur d'oranger. Je reviens du Maroc, la fleur d'oranger, j'ai beaucoup senti. Et ça sent très... très grande fan de la fleur d'oranger.
Tom Villain, question.
Non, je voulais savoir si parfois vous saturez, je sais pas, à mi-journée ou au début d'après-midi, des fois vous en avez marre et vous êtes obligé d'arrêter parce que le corps dit non.
Oui, alors c'est pas le corps qui dit non, quand on sature, c'est la tête, en fait. Parce qu'on est surentraîné. On est surentraîné à sentir. Donc, ce qui est important de connaître, si on veut vraiment connaître l'intimité d'un parfumeur, c'est que on a besoin de réfléchir surtout. On a besoin c'est tout le travail de composition. Donc, quand on est saturé, c'est qu'en fait, on n'arrive plus à avoir d'idées. Et donc, c'est le cerveau qui bloque. Mais je peux continuer à reconnaître presque machinalement.
Est-ce que on devient né, voilà, c'est ça. Est-ce que ça s'apprend pour être né ou est-ce qu'on est né?
Oui, on est
tu sors, tu vas faire un tour. T'as 4 minutes. Allez,
vous êtes assuré contre le rhume?
J'ai aucune idée de mes assurances. Je suis très mauvaise.
Donc ça s'apprend.
Non, alors ça s'apprend évidemment. Évidemment. Alors ce qui s'apprend, c'est la reconnaissance des odeurs. C'est comme un sport. On est enfermé pendant quelques années avec 3000 matières premières.
Non, ça s'appelle la Belgique, ça.
Donc, à part la Belgique, il y a cet aspect de reconnaissance. Après, ce qui ne s'apprend pas, et c'est la composition. Et c'est là qu'on devient parfumeur, et pas seulement un nez. C'est quand on sait faire des choses, finalement, avec la matière première qu'on connaît.
La partie artistique.
Exactement, c'est la partie artistique, c'est la partie créative, ouais. C'est la partie.
Et là, vous travaillez, pardon, vous êtes indépendante ou vous travaillez dans une boîte ?
Non, je travaille dans une société de composition de parfums qui s'appelle Firmenich.
Qui est suisse, c'est ça ?
Qui est suisse, exactement. Et donc, nous créons pour.
Pour différentes marques.
Différentes marques, c'est très varié.
Merci Dora d'être venue.
Merci à vous et bravo pour cette pièce.
D'avoir apporté
votre
expérience. Et la pièce en question s'appelle Darius, justement. On vous encourage à aller l'applaudir avec Clémentine Serraillé et Pierre Cassignan. On voit bien, Daniel, que le métier de nez n'est pas qu'un métier scientifique, c'est aussi artistique, poétique, c'est l'interprétation. L'inspiration.
Même avec des restes de maladie dans mon corps, j'arrive à trouver du génie en vous, monsieur Guy. C'est hyper impressionnant. Vous avez la clairvoyance du sphinx. Mais malheureusement, vous avez aussi aujourd'hui le QI de l'huître. Non. Depuis quand un nez est un métier artistique ? Depuis quand ? Non, mais depuis quand c'est un art de renifler ? Arrêtons les escroqueries. Nez chez un parfumeur, tu parles d'un boulot. Le matin, tu fais la cueillette des fleurs. L'après-midi, tu sens les fleurs, tu les mélanges de l'alcool. Et le soir, tu les bois. À 35 ans, t'es tellement cramé, tu finis ta carrière comme nez au Beaujolais nouveau. Voilà ce qui se passe. Arrêtons, des escrocs, oui. Non, mais faut les entendre, les gars, là. Alors, ce parfum de l'homme moderne est un mélange audacieux de senteurs boisées pour évoquer les libertés, de jasmin pour une fraîcheur pas trop fraîche qui résonne comme un matin d'été. Mais on retrouve aussi un léger fumé de musc pour avertir de matière subtile et nuancée la présence du mâle dominant, du concombre pour avoir un petit côté frais. On a rajouté une touche de muguet pour prouver au monde qu'on peut être viril tout en ayant une once de féminité assumée. Pour finir, quelques effluves de cuir et d'acier pour donner au tout un côté urbain country et SM à la fois, on appellera ça odeur de vestiaire. Tout ça pour vendre un pchit qui sent la douche collective du camping avant une soirée disco. Merci bien. De toute façon, en matière de nez, on n'a jamais fait mieux que monsieur Wizard. Trois parfums, trois ambiances, Océane pour les cabinets, chèvrefeuille pour le salon et agrume pour la chambre à coucher. Et basta. Alors désolé monsieur Guy, mais encore une fois, vous avez dit
n'importe quoi. Merci d'être venu. Original avec Leïla Cadeau-Boudelli.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Pierre-Emmanuel Barré. Daniel.
Bravo. Le retour, Daniel. Incroyable.
Et Charles Mac nous accompagne au clavier. Nos invités sont Clémentine Serraillé et Pierre Cassignan. Une belle histoire d'amour. Au début même, je me suis dit, ça va finir en histoire d'amour aussi entre eux, parce qu'il se passe quelque chose, forcément, entre cette maman qui, par amour pour son fils, veut lui donner du piment dans la vie, veut lui ramener comme ça des souvenirs en tête, lui procurer des joies, des plaisirs, le faire voyager alors qu'il ne peut plus bouger. C'est la mission qu'elle donne à Paul, qui est un professionnel, pas spécialement à la retraite, qui s'est mis hors circuit, en tout cas, qui a arrêté de bosser et de créer.
Et ranger les voitures un peu fatiguées.
Parce qu'il est veuf, parce qu'il a perdu sa femme.
Mais c'est vrai qu'il a perdu sa femme, c'est important.
Mais c'est vrai qu'on se dit,
il y a peut-être moyen de moyenner. Ça serait bien qu'ils terminent ensemble.
Mais justement, c'est ça qui est top.
Il y a moyen de moyenner.
Non, c'est ça qui est bien.
Peut-être qu'à un moment donné.
Sur scène, je veux dire, en tout cas, après.
Oui, après, on laisse l'imaginer.
Un rapport sensuel entre les deux.
Voilà.
Oui.
Olfactif.
Voilà, exactement. Les sens sont en éveil tout au long de cette.
Pourquoi pas Darius 2?
C'est en cours.
De cette pièce. Darius étant le nom justement de votre fils qui ne peut pas voyager, que vous allez faire voyager. Vous n'allez pas lâcher le professionnel pour qu'il obtienne des résultats. Il y a aussi un rapport de je suis cliente, je paye, j'y ai droit, donnez-moi ce que je veux aussi.
Et j'ai mis tout mon argent pour ça. J'ai économisé avec mon ex-mari, donc le personnage. Tout le monde sait que je n'ai jamais été mariée. Donc non, je rigole. Et donc, j'économise et je veux que tout ça ce soit qu'il y arrive. Il y a un moment que je voulais vous parler que j'adore dans la pièce, et quand tu dis toi Pierre, donc Paul, il me dit j'ai fait le parfum de Rochefort. Je demande qu'il fasse le parfum de Demoiselle de Rochefort parce que mon fils adore le film. On l'a regardé ensemble et tout, c'est ce que je raconte. Et alors et lui le fait, donc il va à Rochefort et il fait le parfum, mais il se rend compte qu'en fait il a oublié la pluie. Non,
c'est parce qu'en fait, elle a visité Rochefort avec son môme.
C'était voilà. Pas la
un
même
jour,
météo.
Un jour de pluie, voilà.
C'est oui, c'est génial. Et donc, ça change tout, la pluie. Évidemment. On sait que ça change tout. Donc ça, j'adore ça. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Moi, je pensais tout à l'heure aussi que je trouve que le parfum, c'est comme la radio, parce que c'est un espèce de fluide, comme ça, qui éveille l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on peut, comme disait Dora tout à l'heure, ce nez, cette parfumeuse, ça éveille... Tout un tas d'images et de voyages et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'elle, comme il n'a plus que ce sens, son fils, ce sens et peut déclencher tout un tas de... C'est pour ça que je parlais des films asiatiques, tout à l'heure, coréens, tout ça. Il y a cette sensualité dans ces films-là. Il y a ça dans la pièce. C'est une espèce de côté comme ça... On se touche jamais dans la pièce.
Ah, on a
est
pas vu
ensemble.
Les mêmes alors, pardon, autant pour moi.
Non, c'est ça. Vous ne vous touchez jamais parce qu'à la base, dans le roman de Jean-Benoît Patricot, c'est que de l'écrit, c'est que de la correspondance, même s'il y a des correspondances après des rencontres, mais on n'assiste pas aux rencontres, on n'a que l'avant ou l'après ou l'échange.
Si on se touche une fois.
Si. Oui.
Oui. Et là, les spectateurs font watch
out. Il faut comme
et c'est
ça.
Très très chaud.
Il faut comme ça. Ouais, watch out.
Bang, comme dirait Pierre-Emmanuel Barré. Bon, voici la délicatesse et la qualité, l'excellence avec Clémentine Sélarié, Pierre Cassignard au théâtre Darius et au théâtre des Mathurins à partir du 24 janvier. On passe de cette excellence à l'extrême inverse avec Daniel Morin. Ou alors, j'ai pas compris ce que veut dire excellence.
Alors, tout d'abord, je tiens à rassurer la France, France métropolitaine, les dom-toms également, je vais mieux.
Oh, le boulard.
J'ai été souffrant ces dernières 48 heures, mais ça va mieux. Les progrès de la médecine et ma force de caractère ont eu raison. Un vicieux virus qui s'est abattu sur ma pauvre carcasse. Et bien sûr, merci mille fois de vos soutiens, mes collègues. Merci de vos messages. Merci Leïla.
Ouais,
merci
chéri.
Richard. Et voilà.
C'est vrai,
alors, Tom Villa, j'espère que rapidement tu vas attraper la peste ou la tuberculose pour que je ne t'appelle pas. Quant à vous, Nagui, vivement votre prochaine syphilis. Que je me marre demain à 16h en vous imaginant en train de pleurer face à vos toilettes. Sinon, Richard et Lila, vous pouvez y aller sans crainte. Hein, je serai à l'affût pour vous remonter le moral. Bon, à part ça, excellente nouvelle, les amis. Et oui, aujourd'hui, c'est les soldes. Moins 30, moins 50, moins 70%. Un vent de folie souffle sur nos boutiques. Profites-en, Nagui, achète-toi de vraies chaussures. Oh, si tu savais comme ça nous fend le cœur de devoir porter ces souliers de bowling. Alors, c'est le moment, lâche-toi, achète-toi une paire de kickers, t'auras la classe, mec. Pas mal. Il a été faire les courses avant l'émission. De ton côté, Tom Villa, profites-en pour changer des... Pour tout changer, Tom Villa. Ah là là. Je ne commettrai pas l'erreur de demander à Richard d'en profiter pour changer sa garde-robe. Je l'ai fait il y a 10 ans, mais comme il a toujours les mêmes fringues aujourd'hui, c'est plus une faute de goût, c'est un style. Bien vu, mec, tu déchires. Bref, profitez-en. Autre excellente nouvelle, après George W. Bush et sa tête de président micro-pénis, après Barack Obama, la classe internationale, ça y est, enfin, un président américain qui a du relief. Donald Trump est officiellement un de mes héros. Il aurait fait une sex tape. Comme Valbuena et sa femme, comme Paris Hilton et tous les clients des hôtels qui portent son nom, comme Patrick Cohen avec toutes les femmes de ménage du 5e étage de Radio France. Oui, je sais, comme toi, Pierre-Emmanuel, mais toi, ta sextape, tu es tout seul, tu fixes l'objectif en souriant, et ça, c'est très très gênant.
C'était enfin, pour un casting pour Morandini.
Donald, oui, tu as été pris, j'imagine. Enfin bon, Donald a fait une sextape, il ne l'a pas vraiment faite. Hein. Sextape a été tournée à son insu quand il était en visite en Russie en 2013. On y verrait Donald en train de faire des cochonneries avec des prostituées à Moscou. Bon, enfin... Pas t'inquiéter, Donald, tout va bien, c'est pas grave. Non, sérieux, il est où le scandale? Il est où le scandale? Il est où, comme dirait un ami proche de notre ami Nagui. En Russie, c'est du folklore, c'est pas interdit, c'est un cadeau de bienvenue. Et si tu voulais être filmé en train, si tu voulais pas être filmé plutôt en train de faire les talons VIP, avec des prostituées, en plus, il y a des endroits pour ça. Le Carlton de Lille. Crois-moi, DSK, il a usé du matelas au Carlton, et pas une seule image n'est sortie. Et crois-moi, hein, si on en croit Dodo la Saumure, il y avait de quoi tourner une saga. Tu compares l'intégrale DSK à l'intégrale Star Wars, ben les aventures de Chewbacca, c'est un court-métrage à côté. Non, c'est toi qui as raison, mon Donald. C'est toi qui es dans le vrai. Bon, je vous laisse. Je dois aller acheter des kickers pour qui vous savez.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Darius, cette pièce démarre le 25 janvier. C'est toujours un peu délicat de savoir si il va se passer d'autres choses dans vos carrières, mais elles sont denses, ces carrières. Clémentine, il y a beaucoup de projets aussi, à part Darius, le 24 janvier au théâtre.
Oui, il y a 24 heures de la vie d'une femme en tournée. Voilà. On a tourné Les Bovis, contre Les Bovis.
Ah, c'est génial.
France 2.
Génial dans ce rôle d'avocate.
Merci, on continue. Puis j'ai tourné un film complètement indépendant, autonome, d'auteur, qui, en 15 jours, avec Serge Yaboukine, qui va être projeté dans, je pense, 4 salles de cinéma, d'un long métrage complètement freestyle, qui est magnifique, de Véronique Mériadec, qui est un très très beau film. Et puis j'ai un projet de. Je suis en train d'écrire mon deuxième roman, qui sera un film et tout ça. Donc
un film que vous réaliserez.
Que je vais réaliser. Oui, vraiment. Avec mes potes, d'ailleurs, des potes de vestiaire, des potes. Un film assez indépendant aussi. Un peu de. Ouais, mais un film sur la différence, sur la folie, qui est fou, qui n'est pas fou, tout ça. Et voilà. Donc, il faut que je termine le roman.
À propos de folie, Folamanda, vous faites partie.
Ah, bah là, je vais vous quitter, je vais répéter, oui.
Aujourd'hui
oui, avec Michel Bernier, Ariel Dombal, Patrick Braoudet.
Et malheureusement, Philippe Lièvre aussi.
Et malheureusement,
je suis désolé pour vous.
On perd un temps fou avec lui.
Il y a Roland aussi, Marguerite.
Il y a
Il est magnifique. Que des boulets. Ouais. Ça, c'est au Théâtre de Paris. Oui. Et puis, vous allez jouer dans C'est encore mieux l'après-midi de Ray Cooney.
Oui. Au mois de février au Théâtre Héberto.
Au Théâtre Héberto, donc vous n'arrêtez pas, vous enchaînez, vous êtes, vous êtes un comédien qui est extrêmement, on vous a vu aussi à la télé et au cinéma, mais extrêmement présent au théâtre. C'est un choix où il y a encore des cloisonnements, il y a encore des directeurs de casting ou des réalisateurs qui disent non, lui c'est théâtre, c'est pas cinéma.
Non, de moins en moins, mais c'est vrai que d'un coup, là par exemple, je suis sur 3 spectacles en même temps, c'est difficile de caser un tournage par exemple.
Faites une compète avec Francis Huster ou
pas? Non, avec Pierre Arditi en fait. Il m'a appelé, comme il est un petit peu crevé, il m'a dit Pierre, t'es jeune, tu vas avoir 55 ans, allez, vas-y, à toi la route.
En plus, je vois bien faire ça.
Oui, Pierre, oui.
Ouais. Non, mais c'est sympa. Berléon ferait pas ça parce qu'il est pas sympa, il est pas partageur, mais. L'odeur. On en parle de l'odeur ou pas?
Non,
on parle pas de l'odeur de Berléon, ok.
Ça va, moi je sors de gastro, on va parler de.
C'est une blague, Clémentine.
Et donc vous aimez ça?
Passer de Darius à Folamanda.
Être au théâtre tous les soirs, avoir plusieurs spectacles même qui se croisent entre ceux qui sont en tournée et ceux qui se.
Je suis heureux là, je peux rien vous dire. Je suis heureux quand je répète, je suis heureux quand j'ai des beaux textes.
Ça nécessite une hygiène de vie particulière?
Non, parce que franchement, je me couche très tard, je picolais pas mal. Et là, par contre, j'ai perdu 8 kilos. Hey! Et pour faire 3 spectacles de front, je suis obligé d'avoir.
Attention.
Ouais, bien sûr. Ouais, là je fais très gaffe. Ouais.
Votre outil sont les cordes vocales, votre bien physique, sûr. Votre ouais, forme, ouais, ouais, faut ouais, pas ouais, être ouais. démonté. Ouais. Et la mémoire. Comment ne pas se mélanger les pinceaux dans les textes? Comment passer d'une scène à une autre en 24 heures et être capable
de vous dire. Je me suis un peu, ça se télescopait un petit peu là entre le texte de Folamanda, Darius et plus la première approche, plus voilà, je suis complètement sur Folamanda puisqu'on commence vendredi soir, donc hop, et puis tout de suite après je vais être complètement sur Darius, voilà. Non mais c'est fastoche.
Fastoche, ouais, je crois.
Fastoche.
Non. C'est du boulot et du bon boulot. Parlons et du bon boulot avec le bouillon de culture de Leïla.
Oh, le traitement par rapport à votre vie.
C'est naturel.
La vie est injuste, Clémentine, Pierre, c'est notre bouillon de culture. Je vous sors un peu de la promo, histoire de parler de vous et d'apprendre à mieux vous connaître. Wow. Je crois que vous aimez bien mon générique. Et justement, on commence avec vous, Clémentine, un son pour vous.
Le doute, c'est le premier pas vers la liberté. Dès l'instant où je doute, j'ai un choix. Donc j'accède à la liberté, alors que dans la religion imposée, il n'y a qu'une vérité, celle qu'on vous impose, celle de Dieu. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez que la solution de vous soumettre, ce que beaucoup de gens aiment, puisqu'un très grand nombre de dictateurs ont été élus.
C'est une voix que vous aimez, celle
Boris Cyrulnik.
Boris Cyrulnik, qui préfère donc, on l'a compris, le doute à la religion. Et votre découverte de Boris Cyrulnik a changé beaucoup de choses chez vous. Vous nous expliquez un petit peu, Clémentine.
Merci, c'est la radio. Ouais. La radio, il se passe beaucoup de choses par la radio. J'ai découvert aussi Jacques Rougerie, en fait, qui est un mec incroyable. Bref, Boris Cyrulnik, j'ai entendu cette voix que je trouve d'une douceur et d'une sérénité, enfin, et il m'a touché beaucoup. Donc j'ai voulu le rencontrer dans une émission de télévision à l'époque où on était dans une voiture, vous savez, on conduit chacun un tour de rôle, ça s'appelait, je sais plus quoi, enfin bon, peu importe. Et donc vous êtes bloqué avec quelqu'un en voiture pendant 5 heures, c'est génial. Tout le monde croyait que j'allais choisir un homme très musclé, très beau, etc., enfin un sportif, n'importe quoi. Et enfin, Boris est très beau.
Vous avez de la chance, personne n'a réagi là.
C'est un sportif de l'art parce qu'il dort, il s'en fout. Mais bon, voilà. Mais donc, et c'est passionnant. Et c'était génial. Il m'a parlé, il m'a donné beaucoup de clés. En fait, à l'époque, voilà, j'avais des questions comme ça par rapport. Il m'a dit, vous cherchez la chaleur, donc en fait, c'est chouette, les êtres sur votre route qui vous aident à définir, à identifier des manques que vous pouvez avoir.
Oui, à comprendre aussi les
problèmes.
À comprendre
des trucs, ouais, voilà. Et c'est un homme que j'adore, à chaque fois que je le croise avec sa femme, j'aime beaucoup sa femme. C'est des êtres qui sont riches, vous savez, c'est comme des rencontres avec certains philosophes, avec des scientifiques, tout ça, c'est des gens qui vous...
Comme voilà, ce matin pour nous, ce matin. Pour moi, c'est ça.
Ah oui. Ouais. Vous non, mais vraiment. Hein. Et puis, alors, moi, je voulais vous demander comment vous faites pour faire une émission aussi préparée ou avec une telle qualité d'écoute. Ouais. Moi, je suis sérieuse, là. C'est très rare et c'est merveilleux. Donc,
oh,
et
je vous le dis.
Je vous le dis.
En tout cas, vous semblez avoir en effet besoin d'être à la recherche comme ça d'hommes, de femmes qui pensent. Vous avez ce rapport-là avec Pierre Rabhi. Là, on vient de parler de Boris Cyrulnik. D'avoir besoin de faire, ce genre de découverte par des lectures, par.
Alors je le fais c'est mon fils qui est mon éducateur en fait. J'ai mon dernier fils il me parle sous le temps de philosophes, il m'a parlé de Sartre il y a pas longtemps, de l'existentialisme que je, en fait
c'est la transmission, c'est le retour
c'est,
de
c'est génial.
Retour de femme de la transmission.
Et ça c'est fantastique. Donc j'arrête pas de Pierre connaît mes fils, puisqu'on a cohabité au festival d'Avignon. Voilà, il avait mes culottes tout ça et puis mon linge pendant que je travaillais parce que j'avais deux spectacles, on s'en fout. Voilà, donc non mais c'est merveilleux quand les enfants vous
alimentent
et qui vous cultivent et qui vous apportent en plus par leur découverte. Enfin, bon voilà, donc c'est vrai que c'est j'ai besoin, je trouve en ce moment on a besoin de ça parce que voilà, ça nous ouvre des portes quoi, c'est merveilleux.
On poursuit avec vous, Pierre Cassignard, une autre voix, une autre grande voix pour vous.
Moi, le joie, c'est pour leur regarder, pour suivre leur boulot, pas le mien. Pour suivre leurs émotions, leurs points de vue, leurs idées. Tu guides les gens sur leur propre chemin.
Non, tu ne crois pas. Je crois que oui.
Ah oui, vous tenez bien.
Ouais. Vous avez reconnu, c'est la voix.
De John Malkovich.
Oui, qui parle de la mise en scène de son travail sur Good Canary. Vous avez joué avec Christiane Areali.
Oui, moi j'ai fait la fin de l'exploitation à Paris, j'ai fait toute la tournée. Et pour moi, la rencontre avec John, ça a été un... Oh, c'est classe de faire ça. La rencontre avec John a été... Mais c'est vrai. Non, ça a vraiment été un déclic.
Et en quoi? Dans quelle mesure?
Son rapport à l'acteur, la façon de diriger sans diriger, de donner à l'acteur l'impression d'être plus qu'un interprète, plus qu'un violon, d'être un vrai créateur.
Ouais. Ouais. Et ça, c'est une rencontre marquante, importante, qui a fait évoluer votre jeu aussi, éventuellement, par la suite.
Alors après, c'est difficile quand on rencontre d'autres metteurs en scène. Il faut savoir être souple, tout ça. John, il laisse une liberté totale à l'acteur. Il fait une confiance totale. Mais au point que, par exemple, avec Christiana, il nous donnait l'autorisation de quitter la scène à certains moments, si on voulait, pour laisser le partenaire. Il y avait des petits happenings comme ça qui étaient fabuleux.
Continuer à se surprendre, sur scène. Fabuleux. Et justement, avec l'expérience que vous avez au théâtre, je me disais, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que vous n'êtes pas tenté aussi par la mise en scène? Parce que avoir collaboré avec tous ces metteurs en scène, le regard que vous pouvez porter sur la pièce, les textes, l'espace...
Eh bien, je l'ai fait cette année, une pièce qui va peut-être venir à Paris, une pièce d'Éric Roman et Bénédicte Fossé, avec Claire Nadeau.
Ouais.
Et voilà, une pièce qui s'appelle Mange avant que ça refroidisse. Et je vous assure, c'est vrai.
J'adore le titre.
Je vous assure, c'est vrai. Et la pièce est vachement bien. Et donc, je me suis rendu compte que c'est vraiment un métier de mettre en scène. On peut pas.
C'est-à-dire?
C'est diriger les acteurs sans les enfermer. Pour qu'ils donnent le meilleur en toute liberté, c'est un boulot, un vrai métier.
Vous avez la sensation d'être quoi, trop dirigiste quand...
Non, j'ai pris un grand pied, mais c'est vraiment, ça a pris 4 mois de mon temps, non-stop, quoi.
Ça vous habite, quoi.
Ouais. Bon. Et puis ça repose un peu d'être acteur soi-même.
Ouais, d'accord. Ouais. Ça, le regard est décalé.
Ouais,
c'est
ça
encore
fait du bien.
Autre chose. Ouais. Je finis par vous faire un cadeau à chacun d'entre vous. Pour vous, Clémentine, je vous offre Pourquoi Trump, comprendre les fractures de l'Amérique.
Il y a une réponse. Il y a une réponse.
Eh ben, c'est pas ce possible. Bouquin, c'est dans la collection Les Indispensables, sous la direction d'Éric Fotorino, qui est le patron de l'hebdo. Le 1.
Oh, super, il a
Ouais, et donc là, il y a pas mal de spécialistes qui s'interrogent sur l'ascension de Trump, qui est populiste, xénophobe, misogyne. Pourquoi lui? Pourquoi en faire le 45e président des États-Unis?
Dès que t'as des idées.
Et ouais, je sais, je suis un peu fixe comme ça. Que dit la victoire, en fait, d'un Trump sur l'Amérique, plutôt que de s'offusquer de cette victoire? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'état d'un pays, d'un monde, du parti républicain, de la question raciale, la question migratoire aussi, qui est quand même au centre des débats? Donc ça, c'est pour vous, Clément. Voilà.
Merci.
Et pour vous, Pierre, je vous offre la revue L'éléphant. C'est une revue de culture générale qui a.
Il semblerait que vous en ayez besoin.
Ouais. Mais c'est pas vrai. Mais non, c'est une revue qui est géniale. Là, c'est le 17e opus qui, en fait, sillonne plein de thèmes.
On vous a commandé les 16
autres. Que ce soit la psychologie, l'histoire, la génétique, la politique, la musique. Donc, c'est toujours un. Par exemple, il y a un superbe article sur Beauvoir, la lutte des sexes et la lutte des classes, parce que c'est pas anodin d'associer les deux thématiques. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est le dernier épisode
gentil,
de
merci.
L'éléphant.
Elle n'est pas avec nous.
Voilà.
Hein, elle n'est pas avec nous.
On la connaît pas.
Et je peux Darius. Vous dire un truc, oui. Excusez-moi, je vous trouve très jolie.
Ah, oh, c'est gentil, Pierre.
Merci.
Oh, Clément.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Bah, merci, Pierre, ça me touche. Ils sont jamais gentils avec moi ici, en plus.
C'est pas vrai.
Mais moi j'aime bien votre prénom, Pierre.
Bon, Darius, donc la pièce de Jean-Benoît Patricot et avec Clémentine Sélarié et Pierre Cassignard, mise en scène par Anne Bouvier, c'est au théâtre des Mathurins à partir du 24 janvier. Voici Last Shadow Puppets. Aviation.
Yeah.
Last Shadow Puppet, c'est la bande originale aussi de votre journée matinée sur Inter. Clémentine Sarrier et Pierre Cassignard sont nos invités pour nous présenter Darius, qui sera au théâtre des Mathurins à partir du 24 janvier prochain. Nous avons des questions courtes avec des réponses courtes. Ce sont nos cascades de questions et c'est Leïla qui commence.
Clémentine, est-ce que vous pourriez embrasser Daniel Morat sur la bouche pour défendre la cause des humoristes en mal d'aspiration?
Non, il y a une gastro. Il y a une gastro.
Il y a une gastro.
Elle est généreuse, elle a dit oui.
Elle est généreuse, non, elle est inconsciente.
Vous préférez l'odeur de qui? Clémentine, s'il vous plaît. Vous préférez l'odeur de qui? Est-ce que vous pouvez passer sentir tout le monde et nous dire quelle odeur vous préférez?
Ok, en attendant.
Elle le fait en plus. C'est très radiophonique, c'est une bonne
idée. Mais c'est pas ma faute. À chaque fois, on est en retard, on fait jamais les questions. Et voilà, et là j'ai rien.
Ça crée un petit suspense. Il
a. Et moi?
Ouais, j'ai gagné!
Forcément,
fleur d'oranger.
Fleur d'oranger.
Ah, tu sens. Pas... Vous sentez magnifique.
Ah ben moi, j'ai mis viandox ce matin.
Toi aussi, tu sens bon.
Tommy là.
Mais toi, vous aussi.
Alors, est-ce que vous pouvez repasser chez tout le monde et nous dire l'odeur que vous détestez?
Non. Daniel Morin.
Pierre, vous sentez quoi le matin?
Je sens le lit.
D'accord.
Ah, il y a eu des meilleures chutes.
Je suis désolé.
Fait beaucoup de peine, Pierre.
La question est très claire.
Des excuses à présenter.
Bon, désolé pour nos invités. Hein, quand Leïla a demandé à Pierre Cassignard s'il aimait l'odeur des ânes et qu'a demandé à Clémentine Sélarié si comment elle faisait pour mettre en branle, je suis désolé, vous savez, ces intellos de gauche. Désolé pour Leïla maintenant qui a cru naïvement en l'honnêteté de Pierre Cassignard. Franchement, après une heure et demie d'émission, on a bien vu que c'était un escroc pervers qui aime l'odeur du poulet basquez et de son clébard Jean-Jacques. Est-ce que tu peux être naïve, ma pauvre fille? Et désolé pour tous les fans de la grande humaniste Clémentine qui ont été choqués par la violence de Mademoiselle Sélarié à mon endroit, à mon égard, quand elle a hurlé « Ta gueule !» à de nombreuses reprises à mon endroit. Eh bien, pour tout dire, je suis également choqué.
Mais j'ai embrassé sur la bouche. Hein.
Blessé, mais ça va s'arranger.
Merci mille fois, Clémentine.
C'était Pierre. Super.
Vraiment, ça nous a touchés. Et puis cette pièce aussi... Voilà, elle nous plaît, ça, sans faire de mauvais jeu de mots, ça sent bon parce que il y a toute cette histoire autour, évidemment, du parfum, l'histoire d'amour, l'histoire incroyable entre la maman et son fils, qui se battra jusqu'à la dernière minute pour qu'il ait des moments de joie, d'espoir, et elle va même indirectement redonner goût à la vie, à ce professionnel du parfum. Pierre Cassignard, Clémentine Sélarié, portez-vous bien en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci à très vous vite. Aussi. Merci.